Bonjour à tous et à toutes. Donc Gérard me soufflait dans l'oreillette, juste avant que je monte, d'annoncer qu'il y a une projection d'un film, interview avec deux, au Kinépolis à 14h aujourd'hui, si vous êtes intéressé. Voilà. Est-ce que tu peux afficher le... Ça chauffe. Voilà, merci beaucoup. Alors ce week-end, vous avez entendu parler, c'est les journées européennes du patrimoine. Vous avez entendu parler de ça ? Et peut-être certains d'entre vous ont profité hier ou vont profiter cet après-midi d'aller visiter le palais de justice de Nîmes, la préfecture, les temples ou les églises, la synagogue qui sera ouverte de 15h à 18h. Il y a aussi les beaux hôtels particuliers des rues piétonnes qui sont ouverts, on peut visiter. Ou l'un des 8 musées de Nîmes dont l'entrée sera gratuite. Moi, j'apprécie cette initiative car nous sommes tous bénéficiaires d'un immense patrimoine légué par les générations passées. Et il se trouve que nous n'en profitons presque pas. Et nous en sommes même souvent complètement ignorants. Nous vivons un peu comme si nous étions les seuls sur la planète, les premiers et les derniers. Et nous oublions que notre génération a été précédée par d'autres générations. Et nous oublions qu'après nous, d'autres générations vivront aussi. C'est d'ailleurs une des revendications qu'on entend de plus en plus, en particulier dans les mouvements autour de l'écologie et de la préservation de la planète. Pensez au futur, pensez à ceux qui vivront après. J'ai peur que dans notre foi chrétienne, on soit un petit peu dans la même situation. Nous disposons d'un immense patrimoine légué par ceux qui nous ont précédés et nous n'en faisons que peu de cas. Qui d'entre nous s'est enrichi en lisant par exemple des livres spirituels de grands auteurs chrétiens français comme Bossuet, Blaise Pascal? Qui s'est intéressé aux écrits de Jean Calvin, pour citer pas le moindre des réformateurs, ou de Antoine Court. Vous savez pas qui c'est ? Qui a entendu parler de frère Laurent de la Résurrection ? C'est un gars qui est connu dans le monde entier, un petit français du XVIIe ou XVIIIe siècle. Il est connu dans le monde entier, sous le nom de Brother Lawrence, avec l'accent, s'il vous plaît. Hein, il est connu dans le monde entier. Il n'y a que nous, les Français, qui ne le connaissons pas. C'est quand même étonnant. Et pourtant, ce gars, il a un impact spirituel, encore 300 ans après, sur tous les chrétiens du monde entier, sauf chez les petits Français que nous sommes. Je trouve ça dingue. C'est ahurissant. Plus proche de nous, est-ce que vous avez déjà lu un ouvrage de Henri Blocher, Jacques Ellul, Gilbert Bilezekian, et d'autres, et d'autres, et d'autres? Et de même que nous vivons complètement déconnectés des richesses de notre passé qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on oublie aussi les générations qui viennent après nous. Et nous oublions que le patrimoine qu'on a reçu, on est appelé à le transmettre en bon état, pas dans un état déglingué. Alors c'est dans cet esprit que je vous invite à entamer notre série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres. Chaque semaine, nous vous proposons de lire un chapitre et le dimanche, la prédication sera sur ce chapitre. Donc ça a été annoncé dans le mail de nouvelles, vous l'avez reçu. Et donc ce matin, nous parcourons donc le chapitre d'acte 1. Alors il faut que j'appuie sur le bouton, je toque. Je vous propose de le lire ensemble. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit-Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Petite parenthèse, on a là le plan du livre, et nous sommes le résultat de la transmission de ce patrimoine jusqu'aux extrémités de la terre. Je referme la parenthèse, on continue la lecture. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Je vous invite à prier. Notre Père, rempli de tendresse, toi qui es l'ami des hommes et des femmes, et toi, Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles pour recevoir ta parole. Amen. Alors, vous le savez, l'auteur du livre, c'est Luc, le médecin, qui a écrit aussi l'évangile de Luc. Comme il le précise, il a écrit un premier livre sur tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et là, donc, le deuxième livre, le livre qu'on appelle nous des Actes, démarre juste après la résurrection. Jésus se montre à ses disciples pendant 40 jours. Et nous assistons, dans ce que nous avons lu, en quelque sorte, à la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Et après, fiut, il est enlevé. Luc met en avant une personne qu'il cite trois fois dans ces quelques phrases. Au verset 2, il écrit « Jésus leur donna des ordres par le Saint-Esprit ». Au verset 5, il leur rappelle le début de l'évangile. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Et au verset 8, il leur dit « Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous ». Et voici le mot d'ordre donné par Jésus. « Attendez, ne faites rien avant d'avoir reçu le Saint-Esprit ». Vous allez le recevoir, il a été promis. En peu de mots, Luc nous rappelle l'évangile. Jésus est mort, il est ressuscité, il nous ouvre l'accès au Père. Et ce salut sera attesté par la venue dans la vie de chaque croyant du Saint-Esprit. Il a été promis par Dieu tout au long de l'Ancien Testament, promis par Jean-Baptiste, promis par Jésus. Le mot « esprit », vous savez, c'est le mot « souffle » dans la langue originale. Et on pourrait dire que Dieu va venir souffler sur les disciples. Ça fait écho à la Genèse. Vous vous rappelez quand il est dit que Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière du sol ? Et puis il est dit « et Dieu souffla son souffle, son esprit, et l'être humain devint un être vivant ». C'est rien de moins dont il s'agit. Recevoir le saint souffle de Dieu dans notre vie et devenir vivant, c'est à la fois notre appel, c'est à la fois notre réalité Et c'est notre patrimoine en tant que chrétiens. Alors revenons à notre récit. Pendant 40 jours, ils ont rencontré Jésus en chair et en os, vivant, ressuscité, revenu à la vie, mais d'une manière différente. Certains ne l'ont pas reconnu de suite. D'autres étaient absents. Ils n'ont pas vraiment cru quand on leur a raconté. À chaque fois, Jésus apparaît puis disparaît. Alors vous rappelez, il y a 6 rencontres qui nous sont racontées. La première, c'est le dimanche matin de la résurrection, au jardin de la tombe, quand les femmes arrivent pour embaumer le corps de Jésus, et il avait disparu. Il y a 2 anges qui leur disent, mais il n'est pas là, il est ressuscité. Et là, quelques femmes rencontrent Jésus. La deuxième rencontre qui nous est racontée, c'est dans la même journée, dans l'après-midi, il y a 2 disciples qui partent de Jérusalem et qui rentrent dans un village appelé Emmaüs. Et là, il y a un gars qui chemine avec eux, ils ne savent pas qui c'est. Et puis, il se trouve que c'est Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. La troisième rencontre, c'est le même soir, ce soir-là. Les disciples de Jésus, après la crucifixion et la résurrection, ils avaient la trouille. Et ils se réfugiaient tous pour se retrouver donc dans la chambre à l'étage, dans la chambre haute. Et là, Jésus vient les rencontrer. La porte était fermée à clé parce qu'ils avaient la trouille. Ben, Jésus est rentré quand même. Une autre rencontre, c'est la semaine suivante, le dimanche d'après. Et c'est là où Thomas, qui n'était pas là la première fois, leur a dit, ben moi, si je ne le vois pas moi-même, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Et ben, le dimanche d'après, Thomas était là, la porte était fermée, parce qu'ils avaient toujours la trouille, et Jésus est arrivé quand même. Il y a une autre rencontre qui nous est racontée au bord du lac de Galilée. Jésus faisait cuire du poisson sur la plage, puis les disciples arrivent. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, vous lirez dans Jean, l'Évangile, le dernier chapitre. Et puis la dernière rencontre qui nous est racontée, c'est celle qu'on vient de lire, cette rencontre qui se passait sur le mont des Oliviers. On vient de la lire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait pareil. Jésus apparaît puis disparaît. Ça, ils avaient pris l'habitude. Mais là, il y a 2 anges qui se pointent et qui leur disent « Pourquoi vous continuez à regarder ?» Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, à la résurrection, il y avait 2 anges. Ils étaient vraiment là pour dire « Mais il se passe quelque chose d'inhabituel, là, quelque chose de nouveau. » Et là aussi, cette fois-ci, lorsqu'ils étaient sur le mont des Oliviers et que Jésus a disparu derrière un nuage, les 2 anges ont dit « Là aussi, c'est quelque chose d'inhabituel, de nouveau. » Alors on verra un petit peu dans la suite comment peut-être les disciples ont pu réagir. Mais revenons au lieu où ils se réfugiaient, la chambre haute. Alors j'ai mis là sur l'image une photo de ce qu'on peut visiter à Jérusalem de nos jours, qu'on appelle la chambre haute. Donc peut-être ceux qui viendront au voyage là dans quelques semaines iront le voir. Vous voyez, c'est une magnifique architecture de style gothique. Donc c'est certainement pas l'architecture qui existait du temps de Jésus. Mais bon, c'est pas grave. Donc la chambre de haute, c'était le lieu de refuge depuis la Pâque. Ils s'y retrouvent, ils sont cachés, c'est un abri. Et là encore, le choix de ce lieu est particulier. Vous vous rappelez, avant la Pâque, Jésus leur avait dit à plusieurs disciples, « Vous allez aller dans telle rue à Jérusalem, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche, vous le suivrez et il vous indiquera le lieu où vous pourrez préparer la Pâque. » Moi, ça me rappelle un peu un film avec Coluche, où il avait rendez-vous avec quelqu'un à la gare qu'il ne connaissait pas, et la personne lui dit « J'aurai un arrosoir ». Bon, je ne sais pas si vous voyez ce film. Là, ce n'était pas un arrosoir, c'était une cruche. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre. Bon. Puis vous voyez que mes références cinématographiques ne sont pas très élevées. Alors, que se passe-t-il dans cette chambre? Eh bien, après la crucifixion et la résurrection, ils s'y retrouvaient parce qu'ils avaient peur. Et dans le récit que nous avons lu, ils ont maintenu cette habitude Et il nous est dit que là, ils se retrouvaient pour prier ensemble d'un commun accord. En fait, ils suivent l'ordre de Jésus. Jésus leur a dit, attendez, ne faites rien, vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc eux, ils se mettent en prière. Et quand on regarde de près qui est là, hein, ce que nous raconte Luc, il prend le temps de détailler, il cite chacun des 11 disciples, parce que le 12e, c'est Judas, ben il n'est plus là. Il cite des femmes, sans les citer, et il cite la famille de Jésus, sa mère et ses frères, ou ses frères et sœurs, selon les traductions. Et les trois mots, avec des femmes, sont très importants. Ils montrent qu'il y a une nouveauté parmi ce groupe. C'est une forte nouveauté pour l'époque. Nous, ça nous paraît anodin, mais pour l'époque, c'était quelque chose d'énorme. À la synagogue, chez les Juifs, ça n'existait pas. Les hommes et les femmes priaient chacun de leur côté. Dans la société romaine de l'époque, c'était pareil, les décisions se prenaient chacun de son côté. Il y avait les hommes qui prenaient des décisions pour la ville et les femmes dans le gynécée qui prenaient les décisions pour la maison. Ici, on trouve le groupe, le petit groupe de disciples qui innove, qui fait quelque chose de nouveau. Les deux genres, hommes et femmes, se retrouvent ensemble et communient ensemble dans la prière, d'un commun accord. C'est une grande innovation. C'est un prémisse de restauration, de la séparation brutale qui a séparé les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté depuis la Genèse. L'œuvre de réconciliation de l'humanité menée par Dieu a démarré. Alors, passons à la suite du chapitre. On ne va pas le lire, ça ferait un peu long. Mais vous connaissez l'histoire, puis je vais la résumer. À partir du chapitre 15, il est dit, quelques jours plus tard, Pierre se leva au milieu des croyants, ils étaient à peu près 120 personnes, et il leur fait un discours. Alors ça, c'est très intéressant. Vous imaginez, pendant 40 jours après la résurrection, ils avaient pris l'habitude de voir Jésus apparaître, parler avec eux, les enseigner, et puis bon, chacun rentrait chez soi, et Jésus aussi. Et là, les deux anges leur ont dit, attendez les copains, ça va être différent. Et effectivement, le lendemain, ils s'attendaient à ce que Jésus apparaisse au milieu d'eux, et puis il n'est pas venu. Et le surlendemain non plus. Et au bout de quelques jours, ils ont dû se dire, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors Pierre, lui, eh bien, il se dit, je vais prendre la parole. Pourquoi lui ? Ben, il est tout à fait légitime. Hein. Jésus avait indiqué à ses disciples que les apôtres auraient la charge de continuer d'annoncer la bonne nouvelle après lui. Puis vous rappelez, Jésus, en Jean, dans l'évangile de Jean, on voit que particulièrement à Pierre, il lui dit, tu prendras soin de mes agneaux, tu prendras soin de mes moutons, de mes brebis. Donc Pierre, il a bien compris le message. Il faut prendre soin du troupeau de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il prépare un discours. Pour le petit troupeau apeuré de 120 disciples, hommes et femmes, qui se retrouvaient ce jour-là. Alors c'était pas très facile pour eux d'être repérés comme croyants dans la société. Bon, ça faisait 40 jours, donc un mois et 10 jours, que l'histoire de la résurrection était passée, peut-être que les autorités religieuses et politiques avaient eu d'autres chats à fouetter entre-temps, mais eux, ils avaient quand même un petit peu peur. Ils se retrouvaient entre eux, de manière confinée. Donc Pierre prévoit quelque chose comme prédication. Il veut prendre soin du troupeau. C'est pas mal. Et puis, il y a une idée qui le traverse l'esprit, il lui dit, mais si je regarde comment Jésus a fait, il avait nommé 12 personnes. On n'est plus que 11. Vous voyez, il est tourné vers le passé. Et tourné vers le passé, il se dit, bon, ben, il faut qu'on reproduise ce qu'on a connu. Alors, on va nommer quelqu'un pour faire le 12e. Alors, c'est assez surprenant comme préoccupation. Parce que ce n'est pas vraiment le troupeau qui le préoccupe, mais c'est plutôt la position, on va dire les référents du troupeau. Il en manque un. Et pourtant, Jésus avait bien dit de ne rien faire. Pierre, Jésus a dit, ne faites rien, attendez. Bon, ben Pierre, il fait quand même quelque chose. Alors, il va même trouver des versets dans les psaumes pour étayer son discours. Si on regarde bien, dans ma Bible, il y a une petite référence qui donne l'indication que c'est le psaume 69, le psaume 109. Si on les lit, ben on voit que les versets sont complètement sortis de leur contexte. Voilà. Et Pierre est persuadé que s'il trouve un 12e, ça ira beaucoup mieux. Bon, alors nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Qui choisir? Ben oui, ils sont 120, il y a une place. Donc au lieu d'organiser un concours, Pierre, dans sa prédication, dans son discours, donne un critère. On n'a qu'à trouver quelqu'un qui était là comme les apôtres au tout début. Donc est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui était là au tout début quand Jésus a commencé son ministère, comme nous, quoi. Il était là au baptême de Jésus, puis il a fait tous les 3 ans. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Donc les 120 personnes se regardent. Ah non, lui, il est arrivé plus tard. Et puis ils en trouvent 2. Joseph et Matthias. Ils nous donnent les noms. Ah ben zut, il y en a 2. S'il n'y en avait eu qu'un, l'affaire aurait été réglée. Là, il y en a 2, donc il faut choisir. Et donc, pour choisir, dans le texte, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient Dieu et ils tirent au sort. Alors, ça vous fait sourire? Nous, c'était leur habitude. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils ont tiré à la courte paille, à pile ou face, je ne sais pas. Bon, bref. Alors, j'ai quelques remarques un peu critiques et puis certainement désagréables pour Pierre. Bon, il n'est pas là, je peux en profiter. La première remarque désagréable, c'est qu'on assiste au tirage au sort des responsables de l'Église. C'est un peu étonnant comme méthode. La seconde critique, c'est le critère d'être là depuis le début. C'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Judas aussi, il était là depuis le début. Ce n'était pas forcément un critère suffisant. Et peut-être qu'on aurait pu réfléchir pour éviter de faire un autre choix malencontreux. La troisième, c'est qu'on a fait mauvaise pioche. C'est Matthias qui a été désigné. Alors, j'ai rien contre Matthias, mais Matthias, on ne sait rien de lui. Ni avant, ni après, on n'en entendra jamais plus parler. Dans les deux candidats, il y avait Joseph, et lui, on connaît 2 choses de lui, 2 surnoms qu'il avait. Joseph, surnommé Barsabas, et surnommé Justus, ou le Juste. Et donc Barsabas, selon certains, ça voudrait dire le fils du sabbat ou le fils du repos. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui est soit pieux, soit plutôt calme, paisible. Et puis le juste, ça donne aussi une indication sur son caractère. Donc il trouve 2 personnes, et puis c'est pas le bon, visiblement, qui est choisi. Aïe, aïe, aïe. Alors, que dire de cet épisode situé entre l'Ascension et la Pentecôte? Pourquoi Pierre agit-il alors que l'Esprit-Saint n'est pas encore donné? Alors, le pauvre Pierre, il nous est souvent donné en exemple, mais les exemples qu'on voit au travers de lui, c'est les exemples de transformation. Parce qu'il fait des erreurs, il fait des bêtises, mais on voit aussi qu'il évolue vite et dans le bon sens. Il sait se remettre sur les rails. Alors il reste exemplaire dans les erreurs qu'il commet, mais il reste aussi exemplaire dans sa capacité à apprendre de ses erreurs et à rebondir. Oui, il nous ressemble, nous pouvons nous identifier à lui. Rappelez-vous quand il déclare à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !» Fabuleux. Et quelques lignes après, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Ah, douche froide. Ou alors, à un moment donné, il saisit une épée pour défendre Jésus quand les soldats viennent l'arrêter au Mont des Oliviers. Et Jésus lui dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je claque des doigts, il y a une myriade d'anges qui arrivent pour me délivrer. Range ton épée. Et puis bien sûr, beaucoup plus dramatique et triste, quand Pierre entend le coq chanter après avoir renié Jésus 3 fois. Et là encore, Jésus le restaure. Pierre se remet sur ses jambes. Jésus lui dit 3 fois, m'aimes-tu? Et Pierre répond, oui, tu sais que je t'aime. Alors, prends soin de mon troupeau. Et donc on voit que Pierre, il est là-dedans. Hein, il s'est remis debout. Alors nous connaissons la suite de l'histoire, nous. C'est pas comme eux, hein, qui chaque jour se disaient, mais est-ce que Jésus va venir là aujourd'hui? Hein. Et nous savons qu'après le chapitre 1, il y a le chapitre... Et nous connaissons les deux histoires, nous connaissons la suite. Et puis nous le verrons dimanche prochain. Et là, nous verrons aussi dimanche prochain que dans le chapitre 2, Pierre, il fait un autre discours. Et là, c'est un discours au top. C'est un discours fabuleux. Et c'est un discours qui, cette fois-ci, est réussi, non seulement ça, mais il porte du fruit. Il sert à quelque chose. Alors, que penser de cet épisode entre l'ascension et la Pentecôte, alors que Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint promis? Nous voyons dans ce chapitre 1 la communauté des croyants apeurée, renfermée sur elle-même, qui s'occupe à des choses vraiment pas très pertinentes et qui ne donneront aucune suite. On peut dire que ça sent le renfermer, ça tourne en rond. Et nous verrons au chapitre 2 que quand l'Esprit sera reçu, cette communauté va se déployer et devenir pleinement celle qu'elle doit devenir. Une communauté ouverte, accueillante, avec un projet missionnaire. Elle va se développer en quantité et en qualité. Et je crois que c'est une image saisissante. Comparons la communauté qui n'a pas l'esprit et la communauté qui a reçu l'esprit. La première reste tournée vers le passé. La seconde est vivante et rayonnante. Elle se préoccupe de l'annonce du royaume de Dieu. Les amis, à quelle communauté nous aurions aimé appartenir? Alors la communauté, c'est quelque part la somme des participantes et des participants. Est-ce que nous sommes ce matin assoiffés du Saint-Esprit? Ou certains pensent que peut-être c'est un peu superflu, hein? Comme Pierre, il suffit de voir nos propres besoins avec nos propres yeux. On trouve des versets dans la Bible qui correspondent à peu près et hop, on y va, quoi. Je ne veux pas vous prendre à revers hein, ce matin, mais je vous invite. Je veux nous inviter, moi le premier, à rechercher à nouveau la réception du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre communauté. C'est la promesse. Nous ne le méritons pas plus que nous méritons notre salut. Mais nous le recevons dans la même grâce que nous recevons de Dieu le pardon, la réconciliation, le rachat pour nos péchés en Jésus. Recherchons une nouvelle réception de l'Esprit, une nouvelle effusion, un nouveau souffle, peu importe comment nous l'appelons, pour nous-mêmes, pour notre assemblée. C'est ma prière ce matin. Bien entendu, notre communauté n'est ni la communauté renfermée du chapitre 1, ni la communauté rayonnante du chapitre 2. C'était il y a 20 siècles tout ça. On ne va pas rester focalisé sur le passé. Vivons dans notre époque et soyons une communauté créée par le souffle de l'Esprit. Alors nous, notre Église, hein, ça fait à peu près 40 ans qu'elle existe. Elle a été créée quand le Saint-Esprit soufflait, là, dans ces périodes des années 70-80. Il y a une succession d'hommes et de femmes. Certains sont encore présents aujourd'hui, d'autres non, qui ont été témoins de l'action de Dieu, de la présence de Jésus et du souffle de l'Esprit Saint au travers de cette communauté. Il y a eu des gens avant nous, il y a nous, puis il y aura des gens après nous. Et notre challenge, c'est d'être toujours prêt à recevoir ce souffle pour rester animé, inspiré, envoyé. Notre défi et notre tentation, c'est de redevenir une communauté centrée sur elle-même, un peu renfermée. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, il y a l'église locale, ça c'est super, et puis il y a l'église bocale, ça c'est un peu moins bien. L'Esprit Saint souffle pour nous attirer vers notre appel, une communauté ouverte, agissante, aimante, rayonnante, avec un projet missionnaire. Attendons le Saint-Esprit et recevons-le. C'est ma prière. Alors je vous invite à vous lever. Et puis tout à l'heure, on a formé des petits groupes. Je vous invite qu'on puisse les reformer pendant une minute et que par petits groupes, on puisse dire à notre Dieu, envoie ton souffle sur moi, envoie ton souffle sur ma communauté.